Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ça y est, nous y sommes. Et aujourd'hui, je suis avec Estelle Porret. Salut Estelle, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien, merci.
Et donc, écoute, je suis vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui parce que déjà, je vais découvrir un sport que je ne connais pas du tout, en tout cas que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques jours, puisqu'on va parler de jet ski. Et en plus, c'est du jet ski à bras, hein, pour être plus précis. Et c'est un sport qui est en train vraiment de se développer. Je le vois un peu partout à travers le monde. Toi, en plus, t'as obtenu de nombreux titres et il y a plein de choses hyper intéressantes à découvrir. Je m'intéresse de plus en plus au sport mécanique, donc ça tombe super bien. On va parler un petit peu aussi prépa mentale, effectivement, comme je te disais, et ta double casquette d'entrepreneur, parce que je sais que tu montes plein de projets en ce moment. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc ça va être vraiment vraiment top. En plus, on a failli se rencontrer en Thaïlande. C'est ma faute si on n'a pas
clair,
pu le faire.
On n'est pas passé loin.
Parce que tu avais une très très grosse compétition. C'était les championnats du monde, hein, c'est ça?
C'était la World Cup, ouais.
Ouais,
en Thaïlande.
Plus ou moins la finale des championnats.
C'est ça, alors ça a la même renommée que les championnats du monde, on va dire. C'est une fédération sous la fédération américaine, un peu comme okay. Les X Games, si tu veux. C'est sur 3 courses okay. Partout dans le monde et la finale était en Thaïlande au mois de décembre.
Ouais, donc on a failli se croiser là-bas et c'est vrai que j'avais un agenda très chargé. C'était la priorité à mon petit bout de chou que je suis allé voir, mais c'est pas grave, ça sera que partie remise. Et je sais que j'ai pu voir du jet à la télé là-bas, donc j'étais quand même très très heureux. Donc avant de parler de tous ces sujets, on pourra parler aussi de chat parce que je vois ton chat qui passe derrière
ouais,
l'écran.
C'est ça, il a vraiment envie de se montrer, donc je pense qu'à un moment donné il va faire son apparition, hein, je vous préviens.
Ça marche. Mais ouais, comme je te le disais, il y a une question traditionnelle sur le podcast. Parce que j'aime bien découvrir un peu qui étaient les invités quand ils étaient plus jeunes. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir, je pense en jet notamment. Donc moi, j'ai 3 grands frères qui ont 9 ans, 8 ans et 6 ans d'écart avec moi. Donc ils sont quand même vachement plus grands. Et ils avaient pour consigne de me faire du jet. Donc à l'époque, j'étais petite, ça devait être... je pense la 2e ou 3e fois que je faisais du jet seul, voire même la première peut-être. Donc je devais avoir 10-11 ans. Et, okay. Et en fait, ils m'ont dit, écoute, tu montes dans le jet. Donc j'étais à genoux dans le jet. Et ils m'ont dit, on va faire un départ. Donc on va compter jusqu'à 3. Et après, tu accélères à fond et tu pars tout droit. Ouais. Et moi, forcément, je les ai écoutés parce que j'étais contente, quoi. Et il s'est passé, c'est qu'en accélérant à fond, forcément, comme j'étais petite, ben le jet il est parti, mais pas moi, quoi. Donc je me suis retrouvée dans l'eau. Forcément, ça m'a fait un peu peur, donc j'ai pleuré. J'étais petite et ils ont fini par se faire disputer, hein, forcément.
Ok. Quand tu dis ils avaient consigne de te faire essayer le jet, c'était une consigne du paternel, de la maman.
Ouais, mes parents qui devaient être dans le coin, je pense, et moi je réclamais souvent pour faire du jet. Eux, ils devaient déjà faire des courses à l'époque ou en faire un petit peu plus. On y allait très régulièrement le week-end.
Ouais.
Et du coup, je pense que mon père ou ma mère avaient dû dire à mes frères, faites faire un tour à votre sœur, comme ils étaient mouillés dans l'eau, voilà quoi.
Ouais. Bon, j'ai envie de comprendre un peu d'où vient cette passion familiale pour le jet, mais juste avant, je voulais te poser quand même la question. Tes grands frères, ils t'ont bizuté sur d'autres sujets, j'imagine. Être la petite dernière, c'est pas la facilité.
Ouais, il y a eu pas mal de petites choses. Ils m'ont accroché au porte-manteau, parfois mis dans des poubelles, mais je pense que ça s'est bien retourné. Moi aussi, je les ai embêtés étant plus jeune, donc. On a une super entente et au final on en rigole aujourd'hui. Même si, comme dans toutes les fratries, forcément quand on était plus jeune, il y a eu des petites bagarres et tout ça, mais au final ça a jamais été très méchant. C'était plus de l'amusement pour chacun.
Ok. Bon ben ouais, c'est vrai que j'imagine que ça forge. Et du coup, d'où vient cette passion familiale pour le jet ski?
Eh ben en fait c'est mes parents. Donc mon père de base faisait du motocross. Et en fait c'est assez dangereux la motocross. Quand on tombe même seul, on peut se faire vraiment mal.
Ouais.
Et quand mon grand frère est né, il s'est mis avec son groupe d'amis à le jet arrivé en France dans les années 90 à peu près.
Et du coup
ils se sont mis à découvrir ce sport là qui était un sport d'eau déjà, donc assez fun. On n'est pas dans la boue, on n'est pas dans la poussière, et un sport qui est pas dangereux, c'est-à-dire que tout seul quand on tombe quand même dans l'eau, donc on se fait pas mal, quoi.
Ouais.
Donc il a commencé avec ma mère, du coup, à aller sur ce sport avec un groupe d'amis. Et plus tard, il a ouvert une concession de jet sur Lyon. Donc en fait, il vendait des machines, des jets à selle et des jets à bras, et il préparait aussi des jets pour des clients qui partaient en compétition.
Ok. Ouais.
Et du coup, nous, on l'a accompagné, on l'a toujours suivi sur les compétitions. Il a même organisé une course sur Lyon à l'époque. Et au fil et à mesure du temps, finalement, c'est nous qui sommes devenus pilotes, quoi.
Ok. Sur le Rhône, il a organisé ça ou
non? Ouais, c'était en plein centre de Lyon. Ouais, c'était sur le Rhône.
Waouh, incroyable. Ouais, donc papa est un peu Monsieur Jet en France, ou en tout cas dans la région Rhône-Alpes.
Ouais, il fait partie de la communauté, ouais, qui a quand même un peu œuvré au développement du sport et qui a toujours été là du début, du début, on va dire, du sport à maintenant, quoi.
Ouais, j'imagine. Je vois ton père un peu là, j'imagine. Un peu entrepreneur, un peu casse-cou. Tu confirmes? Enfin, il y avait pas que dans le sport qu'il avait peut-être un peu cet esprit peut-être brûlé ou peur de rien.
Ouais, non, je confirme. Il est entrepreneur et c'est aussi lui qui nous a donné la passion d'entreprendre. Donc, je confirme ce que tu dis. C'est à peu près bien résumé.
Ok. Si je comprends bien aussi, la première fois, t'as été un petit peu forcé de monter sur un jet, ou en tout cas fortement poussé. T'as jamais eu envie à un moment de te dire plus jeune, tiens, toute la famille en fait, si moi j'essayais pas un autre sport et si je m'essayais pas à une autre discipline?
C'est marrant ta question, parce que si, évidemment, bien sûr que j'ai passé cette épreuve-là plus jeune. Alors, on m'a jamais forcé à faire du jet. Je prends l'exemple, mes grands frères, je crois qu'ils ont fait du jet tout seul pour la première fois, ils devaient avoir 6 ans peut-être.
Ouais.
Moi, je suis pas montée dessus avant mes 10 ans parce que j'avais peur, que j'en faisais avec mon père, mais pas seul. Mmh. Donc, nos parents nous ont vraiment jamais forcés, ça a toujours été nous qui demandions quand on avait envie d'en faire.
Ouais.
Après, forcément, plus tard, on va dire à l'adolescence, vers 14-15 ans, c'est là où je me suis dit, c'est un peu le moment où on est un peu rebelle, on sait pas trop si on veut faire comme notre famille, comme nos grands frères, etc.
Ouais.
Et à cette époque-là, je faisais de l'équitation. Et je m'étais posé la question justement d'arrêter le jet pour me mettre à l'équitation. J'en avais parlé même à mes parents, qui m'avaient dit, écoute, si c'est ça que tu veux, on le fait, quoi. On vend le jet et puis tu te mets à fond dans l'équitation. Et ouais. Au final, c'était un passage de ma vie. Je l'ai jamais fait. Et au contraire, enfin, aujourd'hui, j'adore ce que je fais dans le jet. C'est vraiment ma passion et je suis contente de pas avoir arrêté.
Ouais, bah, j'imagine. Et, à quel moment, j'ai cru comprendre que tu avais fait des compétitions très jeunes, et que, bah, du coup, t'es baigné dedans, tes grands frères sont plus âgés, ils sont aussi sur le circuit, si je me trompe pas. À quel moment, toi, t'as envie de vraiment d'y aller à fond, parce que j'imagine, tu vois, en tant qu'enfant, ça, c'est plus un plaisir, tu fais un peu joujou sur l'eau, tu vois. C'est à quel âge que t'as le droit de commencer à faire des compétitions et que ça devient un peu plus sérieux?
Alors en France, on a le droit de commencer à 14 ans les compétitions, sous dérogation, parce qu'en fait, il faut avoir le permis bateau normalement pour faire du jet et pour faire la compétition.
C'est 16 ans le permis bateau.
C'est 16 ans, ouais. Donc en fait, de 14 ans à 16 ans, il y a une catégorie spéciale qui s'appelle les juniors, hein, finalement, où on a une dérogation pour courir sans permis.
Okay.
Et après l'âge, tout dépend. Ça reste en France un sport qui est pas forcément connu ou on peut pas en vivre. Du moins, notamment encore plus il y a 5-6 ans. Donc la priorité, ça a quand même toujours été les études, le travail, même si il y avait ça derrière. Et je dirais que moi, j'ai toujours fait de la compétition et j'ai toujours essayé de m'investir à fond dans ce que je faisais.
Ouais.
Et je m'y suis mis vraiment sérieusement quand j'étais sur la milieu fin de mes études. Donc j'ai fait une école d'ingénieur dans le sud-ouest à Anglette.
Ok.
Et on va dire milieu fin d'études, c'est là où vraiment je me suis mis à rentrer dans le haut niveau, dans le jet, c'est-à-dire à m'investir vraiment comme une athlète de haut niveau et forcément avec les résultats qui ont suivi derrière, quoi.
Ouais, ok. Et c'est entre deux, justement, entre les premières compétitions et le haut niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des petites compètes de temps en temps, t'en fais le week-end, peut-être avec ta famille. Comment est-ce que t'entretiens un peu la passion? Tu vois,
et ben exactement, c'était ça, hein, c'était vraiment, enfin ça l'est toujours aujourd'hui parce que je passe quasiment la plupart de mes week-ends au jet même aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça aussi. C'était vraiment voilà aller s'amuser avec les amis, avec mes frères, avec mes parents, faire du jet quand je rentrais. Alors ce qui était compliqué quand je faisais mes études à Anglette, c'est que je viens de Lyon et ma machine était sur Lyon, donc je revenais pas tous les week-ends.
Ouais.
Donc je profitais pour faire du jet pendant les vacances. Je les rejoignais sur les courses aussi.
Okay.
Ouais, j'ai entretenu ça tout en sachant que voilà, je voulais un jour j'allais organiser ma vie pour me consacrer plus à mon sport, quoi.
Ok. Je suis curieux de savoir aussi comment est-ce que tu étais dans l'autre phase, enfin en dehors du sport, tu vois, comment est-ce que était la petite Estelle à l'école. Alors j'ai forcément, tu vois, quand tu m'as dit que t'avais trois grands frères, j'ai pensé à deux amis, deux copines que j'embrasse d'ailleurs, elles se reconnaîtront. Il y en a une qui avait trois grands frères, du coup c'était la chippie, la peste, qui se permettait tout et n'importe quoi parce qu'elle savait que si on lui faisait quoi que ce soit, ses grands frères nous tombaient dessus. Donc, elle était absolument infecte et imbuvable quand elle était plus jeune. Et l'autre, à l'inverse, qui était hyper chill, hyper ouverte, hyper avenante et hyper casse-cou aussi. Je me souviens, il fallait pas l'embêter parce que elle savait se défendre toute seule. Toi, dans quelle case tu te situais? Peut-être aucune des deux, mais je suis curieux de savoir un peu comment.
Bah, un peu plus la deuxième. Clairement, j'étais un peu garçon manqué quand j'étais plus jeune, parce que forcément, on habite aussi dans un endroit, voilà, où on est vers la forêt, dans les chemins de terre. On faisait du BMX, on faisait de la moto, donc ouais. J'ai toujours un peu suivi mes frères dans des choses un peu casse-cou. J'ai souvent eu plus d'amis garçons que filles à l'école. Donc je dirais plutôt deuxième profil. Par contre, je suis pas quelqu'un de très violente. Enfin, moi aussi, je savais me défendre par les mots, parce que voilà, j'avais, je pense, assez confiance en moi quand même quand j'étais jeune, mais pas trop dans la violence, par contre.
Ok. Ouais. Bon, écoute, très bien. Et à l'école, ça se passait comment?
Plutôt bien. Non, j'avais des super notes. Je pense que j'avais même certains professeurs qui étaient un peu deg, parce que ça a toujours été aussi un peu le mot d'ordre de mes parents. C'était ok, vous avez le droit de faire du jet à partir du moment où tout se passe bien à l'école. Et du coup, on savait que pour pouvoir aller en compétition à l'époque, pour que moi je puisse suivre mes frères quand ils partaient en compétition déjà à l'étranger, il fallait que je loupe l'école. Des fois c'était 15 jours, des fois c'était 3 semaines.
Waouh, ok.
donc pour le faire, il fallait forcément que ça suive derrière au niveau des notes, des résultats, etc. Et du coup, paradoxalement, même quand je loupais 15 jours, 3 semaines, je bossais de mon côté ce que les profs m'avaient donné. En revenant, j'avais même pas de temps de retard que ça. Donc, je sais que certains profs, ça les rendait parfois un peu agacés quand même. Mais non, ça s'est toujours bien passé à l'école.
Ok, bon bah écoute, tant mieux. Et ils réagissaient comment d'ailleurs les profs quand tes parents venaient les voir pour dire bah écoutez désolé notre fille là elle va pas venir pendant 3 semaines pour aller suivre ses frères sur les compétitions de jet ski, donc tu vois des... moi j'imagine les profs qui se disent bon déjà c'est un sport un peu de zinzin tu vois ou, genre non conventionnel et qui tu vois encore à la limite pour du tennis ou du rugby pourquoi pas tu vois si c'est une journée why not, là c'est 2 semaines en plus c'est même pas vraiment pour... enfin c'est pas directement pour toi, ça le deviendra plus tard mais c'est pas directement pour toi comment ils réagissent à tout ça?
Bah c'est vrai quand j'étais au moment d'accompagner mes frères, j'étais quand même dans des type en école primaire c'était l'école primaire donc je pense que les profs étaient quand même un peu plus cool.
Ouais.
Mais je me souviens quand on partait dans des endroits en dehors de la France, quand je revenais, il fallait que je fasse des exposés sur l'endroit où j'étais partie, etc. Donc c'était assez marrant. Et j'ai pas pour souvenir qu'ils aient mal réagi. Au contraire, déjà, j'ai eu certains professeurs qui avaient eu mes frères avant à l'école. Donc forcément, il y a aussi ce lien qui s'est créé. Et on a le réseau local vers chez nous qui est au courant. Enfin, qui a toujours été un peu au courant de ce qu'on faisait, et des résultats qu'on avait, et qui nous ont suivis et accompagnés. Donc je pense que les profs étaient plutôt réceptifs à ça et ils voyaient aussi qu'on était très, du coup ça nous permettait d'être très ouverts autour de nous quoi, de faire ces voyages, de vivre ces moments d'émotion, d'adrénaline aussi.
Ouais.
Je pense que c'est une belle école de vie aussi hein, le sport quand on le suit quoi, parce que on le suit de l'intérieur finalement donc je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais moi quand c'est la course de mes frères je pense encore plus d'émotion que quand c'est la mienne quoi presque hein.
Bah bien sûr. Ouais, je connais ça, tu vois, au tennis, il y avait les matchs par équipe. Donc tu vois, on est regroupé par club et on va affronter les clubs des autres villes dans le département, puis la région, puis au niveau national, tu vois. Et avoir les copains qui jouent, c'est
bah ouais, c'est
tu vois, ça te prend au trip quoi, tu
exactement.
Tu vis le truc autant que quoi. Et en plus t'es pas sur le terrain donc t'es pas dans l'état de flow du tout quoi.
C'est ça, c'est même pire parce que tu peux rien faire à part juste être là à constater quoi.
Ouais. Et je me rends pas compte, tu vois, si on revient quelques années en arrière au moment où tu arrives sur le circuit pro, j'imagine que tu vois il y a un peu les frangins qui tracent la voie, mais est-ce que il y a des rôle modèles tu vois dans le sport ou dans ton sport où tu te dis tiens cette femme là j'aimerais vraiment faire pareil qu'elle ou dans tel sport ça m'inspire vraiment et ça me motive à devenir une athlète professionnelle?
Bien sûr, y en a et j'en ai eu plus jeune. J'en ai eu. Il y avait déjà des pilotes féminines qui faisaient des résultats incroyables. Et certaines couraient contre les garçons à l'époque. Je me souviens et
déjà ouais. Force, okay.
Déjà ouais. Et je dirais même plus. Enfin quoi que. Ouais non si. Il y avait déjà ouais deux pilotes, deux trois pilotes. Et après j'avais aussi mes frères moi qui me servaient d'exemple. Effectivement. Alors d'abord d'autres pilotes, garçons et femmes, et puis ensuite mes frères qui se sont mis à forcément perfer à très haut niveau et qui du coup me servaient d'exemple quand même.
Ouais, ça trace un peu la voie, tu vois. J'imagine que ce soit pour les sponsors aussi, tu vois un peu
bien
comment
sûr.
Ça fonctionne, des rencontres et tout. Donc c'est sûr que ça c'est cool. Tu l'as mentionné maintenant, donc j'ai envie d'aborder ce sujet-là, mais effectivement j'ai découvert du coup en bossant l'interview que dans le jet, les femmes avaient le droit de concourir avec les hommes. Alors, il y a deux catégories qui sont disjointes. Une catégorie qui est réservée aux femmes et les hommes n'ont pas le droit de concourir avec. Et dans la catégorie hommes, les femmes, vous avez le droit de venir si vous le souhaitez. Déjà, comment est-ce que n'importe qui peut prétendre, tu vois, ou n'importe quel athlète de haut niveau peut prétendre aller concourir au niveau masculin? Enfin,
oui.
Dans le niveau, désolé, dans la catégorie masculine.
Oui, n'importe quel athlète aujourd'hui peut, si elle le souhaite, courir avec les hommes. Toutes ouais. ne le font pas par rapport à l'envie, aux capacités, etc. En fait, ça s'est fait parce que c'est un sport mécanique, donc forcément, il y a moins de femmes que d'hommes.
Ouais.
Et qu'à un moment donné, bah, il y a certaines pilotes qui, pour se challenger, une fois arrivées, on va dire, au niveau dans les catégories féminines, notamment en France, où le niveau il est plutôt bas par rapport au niveau international. Je parle de la partie filles, on va dire, puisque forcément on est moins nombreuses. On a voulu justement aller concourir contre les garçons pour se challenger et se développer encore plus.
Ouais.
Mais n'importe qui, bien sûr, n'importe qui peut le faire. Par contre, effectivement, les hommes peuvent pas venir en catégorie féminine.
Ok, d'accord.
Non, après, c'est aussi été un poids en fait pour les promoteurs, notamment les promoteurs internationaux, qui à l'époque refusaient d'ouvrir, on va dire, une en jet. Il y a des catégories par âge au début et ensuite par niveau de machine. C'est-à-dire un peu comme forcément. En Formule 1, etc. Et ils ouais. refusaient d'ouvrir la GP1, donc là où les machines sont plus performantes, aux femmes. C'est-à-dire que la catégorie femmes, c'est toujours le cas sur la compétition que j'ai fait en Thaïlande. Pour les filles, c'est pas du GP1. C'est une machine qui est moins puissante. Et du coup, les filles, justement, pour pallier à ça, on a voulu leur dire, écoutez, on a le niveau de piloter du GP1, et pour vous le montrer, on va aller courir contre les garçons, quoi.
Ok. Et historiquement, il y a des femmes qui ont gagné des trophées, des courses, et qui sont allées, qui sont vraiment frottées au plus haut niveau en jet ski.
Oui, il y en a. De là à faire des podiums sur des courses, je crois pas. Je pense que ça a surtout été peut-être des coups d'éclat ou quelques tours en tête dans la course. Après, ça se fait de plus en plus.
Ouais.
Nous, en France, on est deux. Il y a Jessica et moi. On a, et même Virginie, une femme qui commence aussi à concourir avec les garçons. Moi, je sais que j'ai remporté le championnat de France en 2021. Chez ouais. les garçons. Du coup, on commence petit à petit à prendre un peu de territoire, on va dire. Mais ça reste, le but, c'est pas d'y aller et de dire on y va pour battre les garçons. C'est pas du tout ça le but. C'est plutôt progresser, se challenger encore plus, parce que forcément, quand on sait qu'au niveau national on bat des garçons, ça peut que nous aider à aller gagner les filles au niveau international.
Ouais.
Et surtout, ça a été de faire un petit coup de gueule aux promoteurs en leur disant voilà, on a le niveau d'avoir notre catégorie pro, quoi.
Ouais. Écoute, c'est cool que ce coup de gueule ait marché, en tout cas. Tu vois.
Ouais.
Je sais qu'il y a beaucoup d'autres sports où ça pousse, tu vois. Notamment, il y a plein de sports de glisse qui se créent, tu vois, autour du foil, ou même d'autres nouveaux sports qui sont en train de se créer, ou dans les sports extrêmes, où justement il y a eu des demandes souvent, tu vois, des femmes qu'il y ait beaucoup plus d'égalité, en fait, vu que c'est des nouveaux sports, il y a tout à créer, et ça a pas toujours, elles ont pas toujours obtenu gain de cause, tu vois, donc c'est trop trop bien que cette demande ait marché.
Au championnat du monde UIM, donc qui est sous l'Union internationale motonautique, on va dire, reconnu au CIO, lui c'est vraiment le championnat du monde reconnu. Les deux catégories hommes-femmes sont pied d'égalité totale.
Okay.
Et type la World Cup que j'ai fait en Thaïlande, là pour le coup on attend encore notre catégorie pro, on est toujours sur des machines moins puissantes okay. que les hommes, mais l'année dernière on a quand même vu ils ont fait un test pour la course en Europe, ils ont ouvert cette catégorie pro pour les femmes, ils l'ont pas fait sur les trois courses du championnat, mais ils l'ont fait sur la première pour faire un essai, et on pense qu'ils vont le refaire cette année, donc ça monte et c'est cool.
Ouais, bon, écoute, ravi d'entendre qu'il y a des choses positives, tu vois, qui sont faites, tu vois, sur l'égalité, et que ça avance dans le bon sens, et encore plus dans les sports mécaniques. Donc c'est cool. Il y a la voile aussi. Je sais pas si tu sais, mais en voile, que tu sois un homme ou une femme, on s'en moque. T'es un marin. Point barre. Et tout le monde part sur la même ligne de départ. Et il y a eu des très très grandes navigatrices, tu vois, qui ont gagné des courses extraordinaires. Et voilà, et ça montre la voie en fait, et ça montre que c'est complètement possible. Et
ouais, voilà,
c'est ça. Il y a pas d'écart.
Montrer que c'est complètement possible. Et aujourd'hui, voilà, il faut pas fermer la porte. Moi, je pense à toutes les petites filles qui peuvent voir les sports mécaniques et qui peuvent, par barrière sociale, automatiquement laisser ça de côté,
ouais.
alors que en soi, tout le monde a sa place, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, très cool. T'as des ambitions sur le circuit, du coup, où on va l'appeler mixte, je sais pas, mais c'est quoi ton petit... Il y a forcément une petite voix qui te parle et qui te dit j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien...
Bah ouais,
ça peut être de l'ego, ça peut être de l'orgueil, forcément.
Non, mais j'aimerais bien percer chez les garçons en pro, c'est sûr. Au niveau national, j'ai commencé en catégorie expert, donc c'est une catégorie où on a les mêmes machines que les pros, mais juste un ton en dessous. C'est avant d'être pro finalement, mais c'est la même machine. Donc c'est celle que j'ai remportée en 2021. Cette année, je pense courir avec les pros du coup au championnat de France chez les garçons. Je vais rester chez les filles pour la partie internationale cette saison, normalement. Peut-être me faire quelques petits challenges sur les courses européennes, d'aller courir à l'international avec les garçons. Et ouais, on va dire de toute petite. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais on a retrouvé, ma mère, je crois, a retrouvé un petit mot que j'avais écrit à mon frère à l'époque pour Noël, et je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça, où je lui disais un jour, c'est moi qui te battrai. T'es mon champion aujourd'hui en gros, mais demain ça sera moi quoi.
Okay.
Et du coup c'est un petit truc que j'ai toujours eu envie d'aller faire des podiums à l'international chez les hommes.
Bon bah écoute, c'est tout le bien que je te souhaite, tu vois, et de montrer que c'est possible et que ça donne des étoiles dans les yeux à plein de jeunes filles qui ont envie de s'y mettre. Donc très très cool. Il y a une question effectivement qui est peut-être pas évidente, mais que je voulais te poser, c'est en quoi ça façonne, en quoi le jet ski peut façonner dans un sens ou dans l'autre ta personnalité, tu vois. J'ai du mal à voir quelle est la psychologie de la pilote de jet ski. Je peux te donner des exemples, tu vois, par exemple très concret, tu vois, Roger Federer sur les cours de tennis quand il était jeune, il était extrêmement expressif, extrêmement énervé dès qu'il perdait un point, il criait, il était très 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 nerveux. Et un jour on lui a dit, bah voilà, si t'as envie d'être le meilleur en tennis, il faut que tu sois très calme, il faut que tu sois tout l'inverse, tu vois. Et aujourd'hui la majeure partie des grands joueurs de tennis sont très calmes, et il a imposé un peu un style, maîtrise des émotions, et donc on voit à quel point le tennis ça l'a transformé, tu vois. Moi je serais curieuse de savoir, tu vois, en jet, quelle qualité il faut avoir, tu vois. Est-ce qu'il faut être super organisé? Est-ce qu'il faut s'y connaître vachement en mécanique? Est-ce que il faut avoir une super bonne vision périphérique, tu vois, et des super bons réflexes, tu vois? En quoi ça a transformé un peu ta personnalité, à la fois l'entraînement et les courses?
Au niveau des qualités en jet, je pense que une des plus importantes, ça va être la partie équilibre et sensation, et toujours s'adapter à le jet. C'est pas comme la voiture ou la moto justement, où on est sur un terrain qui est fixe. Nous, on est sur de l'eau, et l'eau c'est tout le temps en mouvement. Il y a pas une seconde qui est pareille sur l'eau, parce que l'eau, bah, ça bouge tout le temps avec le vent, avec les autres personnes qui sont sur l'eau. Je dirais que ça pousse vraiment à développer cette capacité d'adaptation de chaque seconde.
Okay.
Et notamment d'équilibre avec, parce que bah, le jet à bras, c'est pas comme le jet à selle, c'est quand même plus petit. Et c'est comme le vélo, c'est que quand on n'avance pas, on tombe.
Ouais.
On n'a pas beaucoup d'équilibre dessus. Donc c'est vrai que ça demande ça, hein, d'avoir cette capacité d'adaptation et l'équilibre. Après, en termes de personnalité, dans le jet, je pense que ça se rapproche un peu des sports de glisse. Quand je prends un peu de recul sur les copains, sur l'ensemble des riders au championnat de France, etc. Le style, le langage, la façon d'être, vachement avec l'environnement, etc. Ça ressemble un peu à tout ce qu'on voit dans les sports de glisse, je pense.
Ouais. Non, et puis t'as vachement d'intelligence, on va dire. De ton corps dans l'espace, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc effectivement, et puis t'as une façon d'appréhender peut-être les choses, les événements en les faisant, quoi, tout simplement.
C'est ça, c'est très technique comme sport.
Ouais.
Et surtout ça demande à évoluer, c'est-à-dire que c'est une technique qui a évolué avec le temps en fonction de comment ont évolué les machines. Si je prends il y a 10 ans, les jets allaient à 90 km/h, ils faisaient 100 kilos et aujourd'hui on va à 120 km/h et les machines en font 250. Donc il a fallu s'habituer à ces évolutions-là, à la vitesse, au fait que tout va plus vite, tout est plus puissant. Forcément, ça a modulé nos pilotages.
Ouais. Bon, en tout cas, j'encourage vraiment les auditeurs à aller regarder des vidéos de toi et des vidéos d'autres athlètes qu'on peut trouver sur internet, parce que on se rend pas compte à quel point c'est technique, et dès qu'on regarde les vidéos, on te voit te pencher, poser un genou à terre, boum, repartir, on voit que c'est hyper dynamique. Et c'est franchement c'est moi j'ai été fasciné, quoi. J'ai adoré, et je me serais pas dit tiens, c'était autant physique, déjà il y avait autant d'engagement physique
sur cardio, c'est incroyable. Ouais, le jet, c'est explosif. On passe 20 minutes, alors pour ceux à qui ça parle, on passe 20 minutes au-dessus de 180-190 battements par minute, hein.
Bah écoute, il y a beaucoup de grands fans d'endurance et de sport de course à pied, de sport d'endurance en général, qui écoutent Extraterrien, donc je pense que ça leur parlera très clairement. Donc effectivement, ça blague pas. Ouais, ça blague pas. D'ailleurs, tiens, t'as parlé de 20 minutes. Est-ce que tu pourrais expliquer brièvement, parce que c'est peut-être pas le but aujourd'hui, mais comment est un peu organisée la saison? Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment une étape, une course est organisée pour voir un petit peu l'intensité de l'effort, comment est-ce qu'elle est répartie et comment est-ce que ça joue, quoi. Comment est-ce qu'on gagne au jet ski? Bon, j'imagine qu'il faut terminer la première ou le premier de la course, mais ça se passe en plusieurs étapes. Donc, si tu peux nous expliquer un peu, ça serait avec grand plaisir.
Donc bah ouais, comme tu dis, ça se passe en plusieurs étapes. Souvent c'est des championnats, et après sur chaque course, souvent c'est entre 2 et 3 jours l'épreuve, et on a 3 manches, donc 3 courses dans le week-end, plus une série de qualifs.
Okay.
La qualif, ça va vraiment se rapprocher de ce qu'on voit en MotoGP ou en Formule 1, c'est-à-dire que on va être sur le circuit pendant 20, 30, 35 minutes, et on a ce temps-là pour faire le meilleur temps autour.
Ok.
Et cet ordre de temps autour, finalement, va nous donner l'ordre sur la grille de départ de la première manche.
Ok. Ouais.
Donc ça nous permet, celui qui a fait le meilleur temps à la qualif, il va pouvoir choisir sa place en premier sur la grille de départ pour la première manche.
Sachant que vous partez sur la même ligne, mais c'est en fonction peut-être de la bouée du premier virage.
Voilà,
que
c'est ça.
Ça va jouer. Ok.
C'est ça. On part généralement. Donc il y a deux types de départ. Il y a les départs arrêtés. On est vraiment sur la plage.
Ouais. Il y a quelqu'un qui vous tient le jet.
Voilà, il y a quelqu'un qui nous tient, mais nous aussi, on part les deux pieds à terre et on vient sauter sur le jet après pour monter.
Ouais.
Et donc là, dans ces conditions-là, ça nous permet. C'est important la place sur la grille parce que, bah, forcément, quand on est à l'intérieur, bah, on est des fois mieux qu'à l'extérieur. Puis selon comment est positionnée la bouée, on a un avantage, quoi, à choisir sa place en premier, c'est sûr.
Ok.
Et quand c'est des départs lancés, donc là, c'est dans des épreuves où il n'y a pas de plage, par exemple. Pour le coup, le premier, là, c'est dans l'ordre, vraiment, c'est dans l'ordre de la pole position. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et plus on est proche du 1 et moins on a de chemin à faire, en gros, pour la première bouée.
D'accord, ok.
Et après la course, donc, c'est des bouées qui sont positionnées sur l'eau. Il y a entre 30 et 40 bouées par circuit, à peu près. Où là, on vient, ça dessine du coup un circuit et on a soit un nombre de tours, soit un nombre de minutes, et le premier qui arrive à la fin, il a gagné.
Ok. Et faut compter une vingtaine de minutes du coup pour.
C'est ça, c'est une vingtaine de tours en catégorie pro, un peu moins quand on dans les catégories amateurs ou experts.
Ok, ouais, d'accord, ok. Waouh, ouais. Donc t'as dit une trentaine, quarantaine de virages. Ouais, ça en fait quoi.
Tour, généralement, il fait entre 1 minute et 1 minute 40, voire 2 minutes, des fois, sur les circuits longs. Et il y a une partie très technique. Généralement, il y a plusieurs parties dans un circuit. Il y a une partie très technique. Il y a une partie plus ouverte. Il y a des lignes droites aussi. Donc, il y a un peu de tout dans un circuit. Donc, on peut choisir à quel moment on veut se reposer, à quel moment on peut attaquer aussi. Ça peut varier pendant la course.
Ok.
Et après, petite particularité, on appelle ça un double circuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans le circuit, le circuit se divise en 2 circuits parallèles égaux. Je sais pas si je me fais comprendre, mais le parcours se découpe en 2 et on peut prendre soit un circuit vert, soit un circuit bleu.
Ok.
Et c'est le même temps entre les 2 circuits, mais ça permet de se doubler plus facilement.
Ok, ouais, parce que c'est difficile de se doubler.
Bah ouais, c'est un peu comme en Formule 1 ou en MotoGP, c'est pas monotrace autant que la moto ou que la Formule 1, mais ça peut quand même en arriver là sur certains circuits. Okay. Et l'avantage du double circuit, c'est que ça permet justement de pouvoir se doubler sans buter sur l'autre derrière. C'est forcément okay. En jet, quand on suit quelqu'un de près, on a ses remous. Ouais. Donc finalement, quand on suit de près, on peut vite perdre du temps aussi.
Ok. Et du coup, là, entre les parties techniques et les parties plus en ligne droite, toi, tu préfères quel type de partie ? À quel moment, toi, tu fais la différence ?
Bah, j'aime toutes les parties, mais on a toujours été un peu plus technique dans la famille.
Ok. Bah, et c'est ce que j'ai cru voir. Ouais. Sur des vidéos, tu prends les virages hyper serrés comparé à certaines de tes adversaires, qu'ils prennent parfois un peu plus large. Et je me suis dit, waouh, faut envoyer quoi.
J'aime beaucoup ça, travailler sur les trajectoires, sur la technique de pilotage. Voilà, comment passer le plus vite en dépensant le moins d'énergie. Hein, l'objectif, il va être là finalement.
Ouais.
Et après sur les trajectoires, c'est assez incroyable. Ça fait, je pense, deux ans et demi que je commence vraiment à bosser des trajectoires.
Ok.
Et des fois, je me rends compte sur des circuits de 20-30 secondes en changeant à peine mon entrée de virage, je vais gagner 2 secondes quoi.
Ok. Donc, et comment ça se travaille?
De plus en plus important. Je le travaille principalement avec mon père. Pour le coup, parce que c'est vrai que tout seul, c'est difficile d'avoir le recul, de voir si on prend au bon endroit ou si on fait pas un détour, par exemple, ou de la trajectoire en plus. Donc, souvent, c'est des choses que je travaille avec mon père qui me fait essayer avec un chrono et il me dit, essaye de passer comme ça ou regarde comme ça, et on compare finalement au chrono.
Okay, ouais.
Et après, en regardant beaucoup, en regardant les courses des autres, en regardant des vidéos où là justement on a le recul parce qu'on voit le circuit un peu de plus large et on se dit mais on perd du temps à faire ça quoi.
Ouais, ok, ouais. À prendre un virage d'une certaine façon, c'est pas forcément
c'est
pertinent.
Ça. Et des fois il y a des choix à faire. On va faire le choix de sacrifier un virage pour pouvoir prendre comme il faut le deuxième et dans le tour d'après on pourra faire le choix inverse parce que bah la situation est pas la même quoi.
Ok. Ouais, ok, j'imagine. Et comment ça se travaille physiquement? C'est quoi les... J'imagine que le haut du dos doit être vachement sollicité. Je vois aussi ta sangle abdominale parce que des fois on doit te pencher énormément, donc il y a beaucoup de travail d'équilibre de corps. Qu'est-ce que tu vas faire toi en préparation physique?
Bah ouais, comme tu dis, il y a énormément de travail de gainage. C'est hyper complet. Ouais. Que ce soit les jambes, les bras, le dos, donc on va aller vraiment faire du renfo sur tout le corps, effectivement accentuer la partie gainage parce que voilà c'est aujourd'hui c'est hyper important en jet, mais de toute façon c'est aussi dans tous les sports, ça reste quand même un peu la base, la partie gainage corps, parce que ça permet de développer le reste justement. Et après moi je m'entraîne souvent l'hiver quand je suis en hors saison, je fais plutôt des cycles de force pour aller essayer de développer un peu plus ma force dans les jambes notamment.
OK. Et d'explos. Pour pousser sur le
pour pouvoir repousser sur la machine et après d'être explosif forcément ça va être hyper important.
OK.
Et après il y a toute la partie cardio qui demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour pouvoir faire une manche 20 minutes à 100% quoi.
OK. Et à la fin d'une manche comment tu te sens ? T'es complètement lessivé.
Ah ouais, souvent on est quand même bien mort. Ouais. Déjà on est dans l'eau, donc c'est vrai qu'on peut pas respirer aussi naturellement qu'on le ferait en dehors de l'eau. On prend souvent des gerbes d'eau dans la figure, donc on a aussi ce problème-là avec le casque, avec toutes ces choses-là. Le gilet, on est comprimé, on respire quand même moins bien.
Tu transpires encore plus. Ouais.
Ouais, c'est ça. Alors ça, on s'en rend pas compte parce que pour le coup, on est tout le temps mouillé. C'est même ça, c'est un peu des dangers du jet, c'est que quand on s'entraîne, on pense pas à boire parce que finalement, on est tout le temps humidifié. Ouais. On se déshydrate vachement.
Ok. Ouais. Et je suis curieux de savoir, tu vois, aussi sur la dimension mentale, comment est-ce que tu le travailles? Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu une partie sur la trajectoire, donc j'imagine que peut-être t'as dû faire un peu de visualisation comme peuvent le faire des skieurs ou je sais que certains pilotes aussi passent beaucoup de temps à visualiser. Mais du coup ouais, on a été mis en relation par Pierre David que je connais bien et qui je m'entraîne très bien, qui m'a dit qu'il avait travaillé avec toi, mais je suis curieux de savoir à quel point la dimension psychologique et mentale elle est importante. Et peut-être comment est-ce que toi t'es arrivé à la préparation mentale?
Bah, je pense que elle est importante dans tout sport. Hein. À un moment donné, quand on veut atteindre la performance, il faut forcément travailler son mental parce que c'est aussi lui la clé de, on va dire, du succès, de la réussite, de la performance. Il n'y a pas que la préparation du corps. Donc, dans le jet, c'est vrai qu'il y a la machine, il y a la partie mécanique qui va avec la partie budget, etc. Il y a la partie préparation du pilote dans son physique, sa condition générale. La partie technique, donc sa capacité, sa technique de pilotage, et effectivement le mental, parce que si on a les trois premiers mais qu'on arrive à la course pas prêt mentalement, ça peut ne pas fonctionner, quoi. Et moi c'est un peu comme ça que j'y suis arrivée, c'est que je sentais que j'exprimais pas tout mon potentiel, le potentiel que j'exprimais à l'entraînement, j'arrivais pas forcément à le retranscrire en entier en compétition.
Par là, t'entendais que tu faisais des meilleurs temps, peut-être.
Clairement, à l'entraînement que, ouais, c'est sûr, clairement.
Ok.
C'était même plus que des meilleurs temps, c'est que parfois j'étais sur certaines compétitions, j'étais même méconnaissable dans ma manière de piloter, quoi.
Ok. Et tu le sentais à l'intérieur de toi ou c'était juste les résultats qui parlaient pour toi?
Je le sentais parce que j'étais frustrée quand ça arrivait.
Ouais.
On est forcément frustré quand on sait qu'on est bon, et je veux pas paraître prétentieuse en disant ça, mais quand on expose un peu tout à l'entraînement, on sait qu'on est bon et qu'on arrive en compétition et que on sait pas pourquoi, parce qu'à l'époque je savais pas pourquoi. On n'arrive pas à avoir ce flow, à se libérer, on est tout coincé, tout bloqué. Bah on finit la compète, on est frustré, quoi.
Ouais, bien sûr. Donc toi c'est comme ça que tu viens, c'est que tu te dis...
Voilà, et c'est comme ça que je suis venu à travailler clairement le mental.
Donc, t'arrives, t'as pas spécialement ciblé l'origine un peu du problème ou ou exactement ce qu'il faut bosser. Comment est-ce que tu t'y es pris pour justement aller trouver ce que tu devais travailler et ce qui fonctionnait pas le jour de la compète?
Bah au début j'ai essayé de trouver des causes, mais au final je me suis rendu compte que c'était pas spécialement ça. J'ai fait un peu d'hypnose, un peu de méditation, et après je suis tombée sur Pierre un peu à tout hasard sur les réseaux, puis on a discuté et donc Pierre David qui avait vécu un peu la même chose dans son histoire, donc finalement ça m'a inspirée et là est arrivé le Covid en 2020. Et du coup, ça a été le moment pour moi de dire, c'est parfait, quoi. On est à la maison, on a du temps, et du coup, j'ai travaillé avec Pierre David pendant ce moment-là. Et en fait, c'est ce que je cherchais. Ça a été un gros travail sur l'être d'abord, l'identité, qui on est, qui on a envie de devenir, et ça m'a aidé pour plein de choses.
Ok. Et tu peux dévoiler une petite partie de ce que t'as trouvé sur toi, souvent effectivement ils bossent sur l'être, l'identité, et du coup il y a un espèce d'alignement aussi et souvent en bossant avec lui les athlètes se rendent compte qu'il y a un petit désalignement entre plusieurs choses. Toi tu saurais dire d'où ça vient?
Bien sûr, moi j'avais cette problématique de il faut être humble. C'était vraiment ma problématique, c'est que je m'étais, voilà, pour moi c'était voilà, il fallait être humble.
Ça vient d'où? Ça vient d'où ce truc?
Ça vient, je pense que j'ai dans mon entourage proche ou moins proche, ou dans les pilotes que j'avais vus plus jeunes qui performaient vraiment dans mon sport, ils étaient vus comme prétentieux et arrogants.
Ok.
Et en fait, de petite, j'ai eu cette image, et les gens autour qui disaient, vous avez vu comme il se la pète, machin, etc. De dire, je veux pas devenir comme ça, et j'avais assimilé, en fait, et c'était caché, la victoire à l'arrogance, quoi. En fait, je me disais, finalement, pour être champion, à un moment donné, il faut être arrogant, quoi.
Ouais.
Il faut être un peu prétentieux, donc c'est bien, c'est marrant. Il y avait mon corps, mon envie qui avait envie de gagner, et à l'intérieur il y avait mon corps qui y allait à reculons, en mode si tu gagnes, les gens vont dire que tu te la pètes, quoi.
Ok, ouais. Donc tu t'empêchais de gagner, quoi, tout simplement.
Donc c'était un peu ça. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé, et en fait simplement voilà, on se rend compte qu'on est tout finalement, et qu'à un moment donné on peut être prétentieux, et le lendemain on peut être humble, et que il suffit de sortir l'étiquette qu'on a envie de sortir au moment où souhaité, et au moment pour qu'elle nous aide dans l'action qu'on est en train de faire, quoi.
Ouais, exactement. Et aujourd'hui tu t'autorises à être beaucoup plus je vais pas dire arrogante, mais en tout cas expressive de qui tu es vraiment.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je m'autorise et tu vois, je par exemple là, je vais m'autoriser à te dire que l'année prochaine, je veux être championne du monde et je vais l'être. Voilà, c'est mon objectif. Je le suis, ouais. Je le suis pas. Tant pis.
Ouais.
C'est quelque chose que j'aurais pas été capable de dire il y a 2-3 ans parce que je me serais dit mais je me prends pour qui pour dire que je vais gagner quoi.
Ouais.
Aujourd'hui, je le dis, je vais gagner. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, c'est mon objectif. Donc, si j'y arrive pas, tant pis. Et si j'y arrive, tant mieux.
Mais en plus, tu l'incarnes en tout cas. Mais ok, hyper, en tout cas, hyper intéressant. Tu vois ce sujet. Je sais que moi, tu vois un peu de ce que j'ai pu constater et voir aussi un peu à travers tu vois ces livres que j'ai lus et le contenu de lui que j'ai consommé. Je sais pas si ça t'a fait un peu la même chose, mais souvent il y a un truc aussi sur l'identité, tu vois, et l'identité chez les athlètes de haut niveau, elle est très développée autour de leur sport, de leur statut. Je suis tennisman ou je suis on dit jetteuse.
Ouais, on dit jet skieur, ouais.
Ouais, ok. Il y a pas de féminin ou c'est English.
Jet skieuse, on dit aussi, ouais.
Ok, c'est ok.
Jet skieuse, ça se dit aussi.
On dit moi si je pilote, dis des bêtises. Pilote, ouais, voilà. Moi, tu vois, je suis pilote, je suis championne du monde, championne de France et tout, et le jour où.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Où ça disparaît, c'est un peu plus compliqué. Et on a du mal à s'identifier en dehors de son sport. Et peut-être la question que je me posais, c'est que tu vois, toi tu l'as dit, depuis toute jeune, t'as été à fond dans ce sport-là. Et même quand on essaye des choses, tu vois, quand tu baignes un peu dans un univers, tu peux te poser la question de, tiens, et si j'avais grandi dans un autre univers, tu vois. Et c'est une question que tu t'es posée, toi, de...
Comment je serais devenue si j'avais grandi dans un autre univers ou
Ouais, par exemple.
Bah, je me suis pas vraiment posé cette question, mais par contre, à l'inverse, oui, je me suis déjà dit qu'est-ce que je ferais sans le jet, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que plus jeune, je pense que j'aurais pas forcément réussi à trouver la réponse. Aujourd'hui, je la trouve.
Ouais.
Je pourrais faire plein de choses, mais voilà, mon envie pour le moment, elle reste sur le jet. Mais c'est vrai que ouais, l'identité, forcément, on y passe notre temps, on y consacre quasiment toute notre énergie dans notre sport quand on fait ça, voilà, au niveau. Mais même en sport amateur, il y a des sports amateurs où les personnes consacrent tellement de temps que forcément, ça c'est leur identité parce qu'elles vivent pour ça, quoi. Après, il faut pas oublier que voilà, ça reste. En fait, j'ai appris justement avec Pierre en me disant aujourd'hui, c'est finalement mon sport, ma passion, c'est un moyen de devenir qui j'ai envie d'être.
Ouais.
Il y en a d'autres des moyens et ça fait le moyen, ça fait pas de moi qui je suis, ça m'aide à devenir qui j'ai envie d'être, quoi.
Ok, hyper intéressant. Ouais, et tu t'autorises du coup d'autres voies, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas le cas, je pense pas pour les prochaines années, mais si ça devait m'arriver. Je me freinerai pas et je pense que je prendrai la décision d'arrêter si ça me plaît plus.
Ouais, ok. Tu l'as dit, tu vois, les compétitions, elles sont hyper exigeantes. Faut être vraiment à 200% sur la ligne de départ parce que il y a un engagement physique, il y a un engagement sensoriel, il y a un engagement d'attention et de concentration qui est extrêmement élevé. Et de la peur, ouais, effectivement. J'allais y venir. Tu fais bien de me le dire. Aujourd'hui, tu vois, justement, après ce travail et cette première un peu de découverte de la préparation mentale et sur l'identité, tu vois. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te conditionnes avant une course pour essayer d'être à 200%? Est-ce que des routines, des gris-gris, des choses qui te font du bien, tu vois, justement pour être la meilleure version de toi-même sur la ligne de départ?
Alors, j'ai pas de gris-gris,
Tous les athlètes disent ça, mais en fait, quand
mais,
tu creuses,
mais c'est ce que j'allais dire. Mais quoi que, tu vois, je te prends l'exemple, quand je fais des bons résultats avec avec ma combinaison jaune le samedi, bah je sais que le dimanche, la dernière à la finale, je vais la remettre, quoi.
Ok. Ok.
Mais après, sinon, en routine, ouais, j'ai ma petite routine sur les compétitions. Le soir, je fais tout. Enfin, j'aime bien faire voilà des séances un peu d'hypnose, méditation sur la visualisation, la modélisation aussi. Mmh. Le matin des compètes, souvent je prends mon temps calme seul pour aller pareil refaire une petite visualisation du circuit, se mettre en voilà en bonne humeur. On a envie d'être là. On exprime plein de gratitude à être sur les compétitions. Il faut pas l'oublier quand même. C'est une chance pour moi de participer aux compétitions auxquelles je participe. Donc ça, j'essaye de bien me le rappeler à chaque fois. Ouais. Et après, juste avant la course, il y a tout un process d'échauffement, on va dire, qui va être important parce que comme tu le dis, c'est 20 minutes, c'est long et c'est à la fois rapide. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite être dedans parce que si on loupe le départ et les 10 premières minutes, bah, c'est fini, quoi. Hein. Ouais. Donc, il faut tout de suite être dedans à fond. Et là-dessus, on va aller travailler dans l'échauffement sur de l'activation, etc., que je fais pas mal avec mon coach.
Ok, d'accord, ouais. Ok. Et en hypnose et méditation, il y a des visualisations, il y a des choses que tu visualises en particulier. Est-ce que tu vas faire le parcours vitesse réelle? Est-ce que tu vas faire plutôt le parcours vitesse très lente? Est-ce que tu vas visualiser un peu toutes les étapes avant le départ, justement, pour les imaginer et déjà créer un peu de la régularité? Que sur quoi tu bosses ta visualisation?
Alors je fais pas forcément c'est assez rare, ça arrive pas à chaque course que je fasse la visualisation vraiment okay. de tout le circuit. Ouais. Souvent c'est des parties où je me suis sentie plus ou moins bien pendant les essais. Je fais de la visualisation émotionnelle aussi, c'est plus c'est pas forcément lié à la course à ce moment-là. Ouais. Mais c'est plus pour me mettre dans l'état émotionnel de la compétition, quoi. Donc là, je vais aller chercher des moments d'émotion de joie, des moments d'émotion de détermination, d'aller ressentir ces deux émotions-là et finalement de les réincarner après. Okay. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai appris avec Pierre aussi et qui marche très bien. Et après, voilà, ça va être sur des moments, par exemple, le départ, je fais souvent des visualisations sur les départs.
Ok, ouais. Ouais, sur les moments.
Parce que c'est aussi ce qui me posait le plus problème quand j'étais plus jeune, et c'est aujourd'hui le moment où j'ai le plus peur, hein, c'est les départs, quoi. Comme tous les pilotes, hein, je dis moi, mais chaque pilote a peur du départ, je pense que c'est normal, et tout le monde ne l'avoue pas, mais.
Ok. Pourquoi cette peur du départ? C'est parce que c'est le moment le plus clé de la course?
C'est le moment le plus clé, ça reste un sport mécanique, donc ça peut être dangereux comme déjà tous les sports, mais encore plus un sport mécanique. On va quand même à 120 km/h et on arrive il y a qu'une bouée, enfin on part tous en ligne mais on vise la même bouée, donc on est entre 15 et 20 à se rejoindre au même endroit, quoi.
Ouais.
Donc c'est le moment le plus dangereux de la course. Il y a pas de frein sur un jet, donc faut savoir que si quelqu'un tombe devant soi, on n'a pas de quoi freiner, hein. Donc c'est uniquement, on va dire, l'eau qui sert de frein quand on relâche le gaz. Ouais. Donc ça arrive très peu les accidents graves en jet, heureusement, mais ça arrive. Et du coup, c'est pas humain, hein, d'aller à 120 km/h sur l'eau et de se frotter côte à côte avec les autres pilotes à cette vitesse. C'est pas naturel, donc forcément ça fait une petite peur, quoi.
Ouais, non, mais c'est hyper impressionnant. C'est sûr que là, ça active complètement les parties irrationnelles de notre cerveau. Enfin, moi, je vous vois démarrer, c'est un truc de dingue, quoi. Vous êtes au coude à coude. En plus, je crois que vous passez de 0 à 100 en 3 secondes, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est enfin, ça, ouais. C'est ça, en 3-4 secondes.
Ouais, donc c'est... Enfin, je sais pas, aujourd'hui, je crois la voiture la plus rapide au monde, je crois que c'est 0 à 100 en 2,5 secondes. Donc tu vois, vous êtes quasiment au même niveau.
C'est hyper rapide. Bah il y a pas de vitesse, c'est du on-off, hein. Donc c'est une gâchette. Ouais. Voilà, ça va très très vite.
Ouais, comme les scooters 400 ou 500 ou 700 cm3 qu'on peut voir qui font un bruit pas possible d'ailleurs et qui bombardent. Mais OK, je vois très clairement. Ouais, donc c'est forcément il y a une appréhension du danger quoi de
voilà c'est ça il y a forcément une appréhension du danger et j'ai appris avec le temps à pas aller contre en fait c'est juste normal d'avoir peur ouais. Parce que c'est normal la situation elle est aussi dangereuse donc il faut en avoir conscience et il faut s'en servir ça doit pas nous immobiliser ça doit pas nous pomper toute l'énergie et ça doit pas nous empêcher d'agir mais voilà il faut pas la rejeter non plus c'est ouais. Pour moi c'est normal quoi. Encore là quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait la Thaïlande parce qu'il y a un team thaïlandais qui m'a invité à courir pour eux là-bas. Donc j'étais trop contente parce que j'avais pas le budget de faire cette course et on m'y a invité donc c'était chouette. Et le papa de il y avait un petit jeune qui courait dans le même team. Son papa est venu me voir en me disant il faudrait que tu aides mon fils, il a un problème, il a peur au départ.
OK.
Je dis mais je peux pas l'aider parce que en fait il est votre fils il est humain c'est normal d'avoir peur et par contre là où je peux l'aider c'est à travailler sur sa peur oui en effet mais ne plus avoir peur c'est pas possible c'est une réaction humaine normale et d'ailleurs qui nous prépare à l'action quoi qui prépare son corps à réagir plus vite aussi et qui nous prépare au bon à être réactif donc ouais. C'est plutôt bien finalement.
Bah tu vois là tu me fais penser à une super conversation que j'avais eue avec Nouria Newman, je sais pas si tu vois qui c'est. Elle fait du canoë mais du canoë de l'extrême, tu vois dans des canyons,
les trucs comme ça.
Ouais, exactement et tu vois donc c'est une athlète considérée comme un sport extrême, elle est sortie complètement du circuit fédéral où c'est fait dans des beaux bassins bien tracés et tout comme on peut voir au JO et elle ce qui l'éclate effectivement c'est de faire des énormes chutes d'eau de plus de 10 mètres, des trucs hyper engagés et on parlait beaucoup de peur, tu vois, et elle me disait mais en fait la peur il faut l'aimer la peur parce que c'est juste ton cerveau qui t'envoie un message de là il faut que tu sois à 100% sinon il peut t'arriver un truc
si
t'es pas à 100% tu vois et on avait eu une super conversation là-dessus tu vois sur justement comment aimer sa peur, comment l'embrasser et comment juste en fait l'écouter et entendre qu'elle est là et la transformer en une force quoi, en se dire ok bah si la peur est là c'est que il faut que mon cerveau s'active
c'est ça,
à 200%.
Elle est là pour me préparer et aujourd'hui il y a trop de monde qui essaye de presque qui panique quand ils ont peur quoi, mince j'ai peur mais c'est normal, juste c'est normal d'avoir peur quoi.
Ouais.
Ça peut être dans plein de choses avant de prendre la parole avant de je sais pas moi de sauter d'une falaise on peut avoir peur ben c'est normal quoi.
Ouais bien sûr. Puis on a tous nos peurs, c'est une partie irrationnelle de notre cerveau donc il faut
conscience. C'est l'instinct, à la base la peur elle est là pour nous faire fuir d'un danger et pour nous sauver la vie donc justement comme tu le disais, la peur elle est là pour nous aider à nous préparer à faire l'action quoi.
Ouais, survivre. OK, ouais complètement. Et si ça peut te rassurer, sache que même en triathlon, ils ont aussi très peur du départ. Je discutais il y a pas si longtemps avec Léo Bergère, tu vois, qui a été champion du monde d'ailleurs donc de triathlon il y a pas très longtemps et lui pendant un moment il flippait des départs parce qu'une fois il s'est fait couler sous la marée humaine quoi. Et en fait quand t'as une centaine de nageurs qui passent, que si t'es dans les premiers et que tu plonges, que tu voilà,
tu
veux pas remonter, tu restes 2 minutes sous l'eau quoi. Et donc c'est hyper flippant quoi. Donc comme quoi je crois que dans tous les sports il y a une appréhension du départ qui est hyper particulière.
Ouais, et puis de toute façon, c'est là où la course se lance donc forcément c'est une fois que c'est lancé, c'est lancé mais après pour la lancer, c'est forcément le plus stressant quoi.
Ouais, c'est clair. Mais j'en vois plein des astuces. Et là, hier, j'étais avec Yohan Koval qui m'a raconté que lui, il ferme les yeux, il s'imagine dans un lieu de paix, tu vois, et pour essayer d'oublier un peu le stress aussi. Enfin bref, chacun a son petit truc. Mais en tout cas, c'est passionnant.
Moi, avant le départ, tout le temps sur la grille, je me dis, et ça, c'est un peu, je pense, les athlètes de l'académie de Pierre qui ont tous un peu ce réflexe. Qui j'ai envie d'être sur cette course, ouais. Ça va changer en fonction de la course et en fonction de la période dans laquelle je suis. Des fois, je vais avoir envie juste d'être libre et de naviguer avec en toute liberté, en toute fluidité. Des fois, je vais avoir envie d'être une guerrière parce que je me sentais un peu moins agressive sur la manche d'avant. Et je vais viser que ça. Voilà, je vais dire aujourd'hui, je fais la course dans le but de devenir un peu plus une guerrière, de devenir un peu plus libre. Et j'essaie de me concentrer là-dessus.
Ok. Et qu'est-ce qu'il dit sur toi, le 96?
Le 96, c'est mon année de naissance, 1996. Okay. Donc, pas forcément très original. Quand j'étais petite, j'ai choisi ce numéro quand j'ai attaqué la course. Et finalement, je l'ai gardé. Il représente mon année de naissance.
Ok, d'accord. Et du coup, vous choisissez, quand vous commencez le circuit, tu choisis un numéro et puis après tu l'as à vie, tu peux plus le changer.
Exactement. Bah si, tu peux changer si tu veux. Mais c'est vrai que moi, je l'ai jamais changé. Donc tu choisis un numéro, il faut qu'il soit libre, évidemment.
Bien sûr.
Et après tu peux changer si t'as envie. Et c'est vrai que dans l'habitude qu'on a, les pilotes ont leur numéro, ils les gardent toujours, quoi.
Ouais, bien sûr. Après, ça devient
parce qu'après,
fétiche.
Ouais, c'est ça. C'est l'identité finalement. 96, on sait qui c'est sur les circuits, quoi, maintenant. C'est vrai que
je
ne verrais pas changer.
Bah, c'est clair. Ce que je voulais te demander, c'est à quel point les conditions climatiques, elles peuvent influencer. Dans la course, c'est un sport où il y a un élément supplémentaire, tu vois. Vous êtes sur l'eau, il peut y avoir énormément de vent aussi, que vous soyez sur des lacs ou que vous soyez en mer. La pluie peut venir. J'imagine qu'un soleil rasant ou coucher de soleil, lever de soleil, ça doit pas être facile non plus à gérer. Toi, c'est quoi les conditions idéales pour toi? Et à l'inverse, quelles sont les conditions qui peuvent te perturber une course? Si t'as peut-être des courses à nous raconter, je suis tout ouï pour imaginer.
Moi,
parce que sur les images, on vous voit, c'est toujours magnifique, c'est toujours dans des décors paradisiaques. Donc je me dis, bon, ça n'a pas toujours être comme ça quand même.
Non, voilà, déjà c'est pas toujours comme ça. Souvent on nous dit tu fais du jet, c'est trop bien, c'est au bord de l'eau. Là on est encore, là il fait bon, mais voilà, on est en janvier. L'hiver on s'entraîne, il fait 2 degrés dehors et on est gelé. Des fois il pleut, on y va, on est gelé quand même. Donc ouais, c'est pas toujours facile.
Tu continues de t'entraîner sous la pluie ?
On continue de s'entraîner sous la pluie, évidemment s'il y a pas d'orage, parce que quand il y a d'orage, pour le coup, qu'on soit en course ou à l'entraînement, la course est annulée. Et à l'entraînement, il faut pas y aller, hein, évidemment.
Ouais.
S'il y a un orage, c'est pas. Mais ouais, sous la pluie, on peut toujours naviguer.
Okay. Donc
ça, que ce soit en course ou à l'entraînement, ça annule ni une course ni un entraînement.
Ouais.
Soleil rasant, ça peut être très très dérangeant. Et il y a déjà eu des courses qui se sont annulées. Parce que ça rendait le départ justement dangereux si on n'a pas une bonne visibilité. Si le soleil il est rasant au niveau de la première bouée, par exemple, là, c'est plus la direction de course qui prend l'idée d'annuler la course. Et après, les conditions sont hyper changeantes. Moi, c'est ça que j'adore. C'est donc nous, on habite vers Lyon, donc on s'entraîne plus généralement en fleuve, en lac, donc dans des circuits d'eau, on va dire lisses, même si le Rhône aujourd'hui, quand il y a du vent, il y a du gros clapot dedans.
Ouais.
Mais les conditions que moi je préfère, c'est en mer, et souvent quand ça bouge vraiment beaucoup, qu'il y a des grosses vagues, et ça c'est vraiment les conditions que j'adore. Alors qu'à la base j'étais pas prédestinée pour ces conditions-là, mais voilà, j'adore le prendre comme un jeu justement. Et là la saison dernière, la première course en Corse, je me suis fracturé la cheville dans les vagues justement.
Ok.
Mais ça m'a pas démotivée. J'apprécie toujours les vagues. Et c'est vrai que ça qui est cool, c'est que finalement, on peut avoir, même dans l'après-midi, ça peut changer. On a une course à 14h, la mer va être déchaînée, et la catégorie qui passe à 16h, le vent est retombé, ils vont avoir l'eau lisse, quoi.
Ouais. Ouais, ça qui est, c'est dingue, ça peut changer, ça change complètement un jour sur l'autre.
Voilà, c'est ça. Là, en Thaïlande, on a eu 4 manches là-bas pour le coup, il y a eu 2 manches avec des vagues et 2 totalement lisses, quoi.
Ouais.
Donc,
okay.
Il en faut, et ça en fait pour tout le monde, et c'est des pilotages qui sont totalement différents en plus des conditions à l'autre.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que tu vas changer ton matériel? Est-ce que tu vas changer, je sais pas, ta façon de démarrer, ta façon de tourner, qu'est-ce que ça change en toi, dans ta stratégie et dans ta technique, tu vois?
Ouais, ça change plein de choses. On va pas changer de matériel en entier. Par contre, on peut faire des réglages différents.
Okay.
On a divers accessoires sur les jets. On peut changer la réglage du bras aussi. Donc, on peut allonger ou raccourcir le bras pour être plus ou moins à l'avant ou plus ou rien à l'arrière sur la machine.
Ok.
Donc quand il y a des vagues, typiquement, on va rallonger pour être un peu plus sur l'arrière pour pouvoir pas enfourner finalement et garder le nez en dehors de l'eau.
Ouais.
Et après, ouais, le pilotage va changer, la stratégie aussi. Quand on est dans des vagues, le but, ça va pas être de gagner du temps sur les virages, ouais. Mais ça va être de gagner du temps dans les lignes droites. On va pas viser la bouée quand il y a vraiment des grosses vagues. On va pas aller viser la bouée sans regarder l'état des vagues autour. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à la mer. S'il faut virer 2 mètres derrière la bouée parce que la mer était mieux à cet endroit-là, bah on va aller virer 2 mètres derrière la bouée, quoi.
Okay.
Alors que quand il n'y a pas de vague, pour le coup, c'est vitesse pure. Donc là, on sait ce qu'on a à faire. Il faut viser la bouée, il faut aller au chemin le plus court et il faut aller vite dans les parties techniques. Et alors que ouais, dans les vagues, les virages sont un peu moins importants. On va plus être dans la lecture de la vague et dans l'amusement aussi. On se rend compte dans les vagues que c'est les pilotes souvent qui prennent ça comme un jeu, qui s'amusent avec la mer, qui performent le mieux.
Ok, d'accord. Ok. Mais écoute, j'aurais pas imaginé ça, donc j'étais très curieux de t'entendre. Tu l'as mentionné tout à l'heure sur la course de la Thaïlande que tu pouvais pas nécessairement la faire parce que pour des soucis de budget. Moi, j'avais eu tout de suite l'amalgame, j'ai fait tout de suite le rapprochement sport mécanique égale sport coûteux, tu vois. Et je me suis dit, en plus je me suis dit tiens, compétition en Thaïlande, waouh, si tu dois déplacer le matos et tout, ça doit être un budget. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères cette partie-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de sponsors, pas beaucoup, qui peuvent justement permettre de financer une saison comme ça?
Alors le jet, ça reste un sport mécanique, donc ça reste un sport qui est coûteux. Je vais pas te dire l'inverse. Par contre, c'est un des sports.
Ça coûte combien un jet, par exemple?
Ben, ça dépend. Après, à quel niveau tu le fais, mais un jet
en GP,
en GP1 comme le mien, c'est entre 30 et 35 000 euros. Il y a okay. Des pilotes qui arrivent même à des budgets. C'est pour ça que je te dis que finalement, par rapport au sport mécanique, c'est un des sports les moins chers entre guillemets, ouais. Parce que on n'a pas des pneus à changer tous les week-ends. Donc bon, c'est un investissement de départ. Il y a des pilotes qui mettent jusqu'à 50 000 euros, voire un peu plus après en préparant les moteurs, etc. dans leur GP1.
Ouais.
Et après, quand on veut débuter aujourd'hui, pour débuter, on a sur les petites machines, on peut trouver à 3 4 000 des premières machines pour débuter.
Okay.
Jusqu'à au maximum, ça va être 10 000 euros pour faire du niveau amateur, quoi.
Okay,
amateur, okay. Déjà bien se régaler, même aller sur l'international dans les catégories en dessous en puissance, quoi.
Ok, ouais. Et c'est les sponsors, vous les donnez, vous êtes regroupés, je sais pas, en écurie, un peu comme les voitures.
Alors il y a des teams qui se regroupent, bien sûr.
Ouais.
Après en France, malheureusement, c'est pas forcément très reconnu encore, donc on a du mal à trouver des partenaires aussi pour nous accompagner financièrement. Donc il a fallu trouver des moyens pour se financer un peu en autonomie, d'où le travail. Aujourd'hui, toutes mes économies passent dans mon sport. Hein. Donc il y a évidemment des sponsors financiers qui sont là pour m'accompagner. Une saison comme je le fais aujourd'hui me coûte entre 30 et 40 000 euros sans ma machine.
Ok.
Parce que je la réutilise aussi chaque année.
Quand tu dis saison, c'est voyage, entraînement.
Voilà, c'est voyage, c'est l'essence pour les entraînements.
Ouais.
Ça va être l'équipe, le mécano, les entraîneurs. Ça va être vraiment okay. tout ça englobé. Les réparations s'il y a besoin sur la machine, les inscriptions.
Ouais.
Il y a des pilotes à mon niveau, mes concurrentes, qui dépensent 80, 100 000 euros sur leur saison parce que le budget leur permet, quoi.
Ouais, bien sûr.
Mais finalement, on n'est pas non plus à la rue.
Ouais.
La preuve, c'est que j'arrive quand même à perfer avec le budget que j'ai là. Ça me donne une force aussi supplémentaire.
Ouais.
Et après, l'achat de la machine, là, il est indépendant. Donc cette année, j'ai fait le choix d'investir dans une deuxième machine. C'est pour ça que à la base, je devais pas faire la Thaïlande l'année dernière et j'avais calmé les compétitions pour économiser des sous et investir dans une deuxième machine. Parce que quand
okay.
ma machine part en Chine ou en Indonésie sur le mondial, elle part en bateau. Pour le coup, c'est payé par le championnat du monde quand on est sélectionné.
Mais okay,
c'est eux qui financent toute la partie logistique des machines.
Ok. Ce qui est déjà
vraiment cool. Et on est 15 filles, 15 garçons à être sélectionnés pour le mondial.
Ouais.
Mais par contre, la machine, elle est pas là pendant un mois et demi ou deux, quoi.
Ouais.
Et moi, jusqu'ici, du coup, dans ces périodes-là, je m'entraînais pas. Forcément, c'était pas l'idéal.
Ouais.
Et voilà, il a fallu, ça m'a pris quasiment 3 ans de pouvoir avoir le budget. Et aujourd'hui, je l'ai pas totalement bouclé, ce budget pour ma deuxième machine, mais il est en grande partie fini pour avoir une deuxième machine, quoi.
Waouh. Ok. Ah ouais, je me serais pas douté que, du coup, un mois et demi avant une course, tu t'entraînes pas, parce qu'il faut l'envoyer et que t'en as besoin.
On n'est pas beaucoup, dans le circuit, mondial à être dans ce niveau-là, parce que, la plupart, ils ont 3, 4 machines, mais, c'est vrai que nous, déjà, on était 4 enfants, donc pour mes parents, ça a toujours été, ils pouvaient pas payer 4 saisons à 4 enfants, c'est pas possible.
Ouais.
Donc on s'est toujours débrouillé pour trouver des partenaires à droite à gauche, mettre des sous à nous aussi et voilà. Donc après le mois d'avant je faisais pas zéro jet parce que j'avais toujours l'opportunité de faire du jet de quelqu'un, de mon frère, d'un ami. Mais voilà, c'est pas pareil. Je sais que pour progresser il fallait que j'investisse dans cette deuxième machine.
Bien sûr. C'est tu me surprends, tu vois, je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises que t'es qu'une seule machine, quoi. Et tu t'y connais en mécanique du coup vachement bien ou pas?
Vachement bien non. non, je m'y connais, je sais la base, faire 2-3 trucs, recharger une batterie, changer une bougie, parce que quand des fois je vais m'entraîner seul, donc enfin je rejoins des amis, mais voilà, je sais me débrouiller. Mais après pure mécanique non c'est vraiment pas mon domaine et j'ai du mal en plus à apprendre parce que c'est pas mon truc, quoi.
Ouais.
Donc là je suis totalement accompagné.
Ouais, ça te passionne pas? Ouais. OK. Et tu me disais un petit peu en antenne que c'était encore plus dur pour les sports non olympiques là en ce moment parce que les budgets se resserrent. Comment est-ce que tu vois un peu les 18 mois là qui vont arriver du coup pour toi et pour pouvoir financer une telle saison?
C'est vrai que ouais, ça se resserre un peu parce que ce qui est normal c'est un événement qui va être grandiose, qui va se produire en France, c'est vrai que l'économie va tourner autour des sports et des sportifs qui vont participer aux JO et c'est top. Et c'est vrai que nous à côté du coup on va devoir redoubler d'efforts pour se démarquer justement et aussi aller chercher des budgets, et pour aller chercher des budgets il faut être réaliste, il faut trouver, et c'est ce que je propose aujourd'hui moi à mes partenaires et qui marche super bien, c'est proposer des services en échange des choses où tout le monde s'y retrouve et où le partenaire en face il a quelque chose qui se transforme en valeur, quoi, pour lui.
Ouais. Par curiosité, on peut te demander ce que tu proposes en service, tu vas faire quoi?
Ouais,
des conférences.
Voilà, ça va tourner. Donc, ça peut être des conférences, des séminaires d'entreprise où on fait des baptêmes de pilotage, des jeux d'activités autour du jet, des sports d'eau. Ça va être toute la partie communication, évidemment. Il y a aussi ce double, comme je suis entrepreneuse, chef d'entreprise, j'ai un peu cette double casquette de pouvoir lier le sport, le management et mettre tout ça, ouais, au sein de conférences, séminaires pour les entreprises.
Ok, ouais. Tu m'as dit que tu montais 3 boîtes là, en plus avec tes frères, donc je me dis donc, vous faites tout ensemble finalement. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu en quoi elles consistent et comment est-ce que vous êtes lancé?
Ouais, et en gros, on a dû trouver un système pour travailler, parce qu'il faut travailler pour se nourrir, pour nourrir la famille. Il faut aussi travailler pour payer notre sport. Mais à côté de ça, il faut aussi pouvoir organiser son temps pour s'entraîner, pour aller faire les compétitions. Comme je te disais tout à l'heure, mon grand-père a été entrepreneur aussi. Donc on a toujours un peu grandi dans ce milieu-là d'entreprendre, et ça a été assez logique pour nous de se mettre dans l'entrepreneuriat et de pouvoir justement créer des structures où finalement on vient retrouver tout ce qu'on adore dans le sport, on adore dans l'entrepreneuriat, parce que c'est quasiment pareil, quoi. On vient se challenger sur les mêmes choses et on arrive à ressentir les mêmes émotions. Donc c'est ce qui nous a plu tout de suite dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui nous permet aussi d'organiser notre temps pour pouvoir s'entraîner et partir sur les compétitions. Je dis pas qu'on travaille moins, bien au contraire, mais par contre, on peut s'organiser aussi un peu plus facilement.
Ouais.
Et de famille, on a toujours été dans le bâtiment, principalement dans le second œuvre. Donc, ouais. On a développé nos entreprises autour des métiers familiaux, on va dire, qui sont la menuiserie, ouais. La maçonnerie, la terrasse, aujourd'hui, qu'on a développé. Et moi, en étant ingénieur bâtiment, j'ai ma petite activité aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage où j'accompagne mes clients dans leurs projets de rénovation, que ce soit dans les locaux professionnels ou dans les habitations.
Ok. Et par curiosité, du coup, combien de temps tu bosses au final par semaine et comment est-ce que tu t'organises avec les entraînements?
J'évite de compter combien de temps je bosse. beaucoup, je pense. Je m'organise après à la force. On se met un rythme aussi. C'est une discipline qu'il faut se tenir.
Ouais.
Au début, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je me limitais pas du tout sur mes horaires de travail. Et je me souviens que mon père un jour m'a dit « Demande-toi si tu travailles pour vivre ou si tu vis pour travailler. »
Ouais.
Et là, je me suis fait tilt en me disant « Ouais, en vrai, le but initial, il était effectivement de travailler pour faire mon sport, pour justement, quand on travaille avec nos collaborateurs, c'est hyper plaisant qu'eux, ils s'épanouissent au travail. » Et voilà, c'était là le but.
Ouais.
Et je voulais pas me perdre à passer toutes mes heures au travail, donc j'ai pris d'un peu de recul et je me suis fixé des horaires. Donc je travaille tous les jours, moi, de 7h à midi et de 13h30 à 18-19h. Et je cale mes entraînements dans ces horaires-là ou le soir plus tard.
Okay.
Souvent, trois fois par semaine, je m'entraîne entre 11h30 et 13h.
Okay.
En fin de matinée. Et parfois le soir et les week-ends, je suis au jet.
Okay. Et tu arrives à t'entraîner le soir avec la luminosité et tout?
Alors, quand je dis je m'entraîne, c'est en jet, j'y vais que les week-ends.
Ouais.
Parce que ça demande du temps d'aller faire une. C'est pas comme je vais courir, je vais en salle, ça va assez vite, entre guillemets. C'est un entraînement qui dure 1h30, 2h. Ouais. Quand on sort en jet, tout de suite, ça demande une demi-journée. Donc,
ça nous
arrive de le faire en semaine. Ouais. On le fait hein, avant les compétitions, quand on a des tests à faire, quand on veut faire de la technique. Mais c'est pas tous les jours, toutes les semaines, quoi.
Ok, d'accord. Ouais. Ouais, et du coup, l'entraînement, ça va être plutôt le week-end et prendre le temps
d'être sur l'eau. C'est ça, le week-end au jet. Et c'est aussi des moments qu'on partage en famille, entre amis. Et la semaine, ça va être plutôt être l'entraînement physique.
Ok. J'ai l'impression que t'as une vie à 100 à l'heure et que ton agenda, il est très, 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 très plein. Comment est-ce que tu relâches un peu la pression? Comment est-ce que tu te détends? T'arrives un peu à...
C'est marrant, on me disait ça il y a pas longtemps, on me demandait si j'arrivais à profiter avec tout ça, et en fait, c'est ma manière à moi de profiter, du coup, je m'en rends pas spécialement compte, mais oui, l'emploi du temps, c'est sûr, il est très chargé, mais c'est mon choix. Aujourd'hui, je le fais pas par obligation, hein, c'est mon choix, et parce que ma situation d'aujourd'hui me permet de faire ça. Le jour où j'ai une famille, forcément mon temps il va se diviser, mes priorités vont changer. C'est dans la logique de ce qu'on vit à chaque moment. Donc voilà, aujourd'hui je profite en faisant ça. Là par exemple, quand la saison s'est terminée donc à la base moi elle s'est terminée au mois de septembre, je devais pas faire la course au mois de décembre, bah j'en ai profité pour sortir avec mes amis, aller faire la fête alors que je le fais jamais d'habitude, et c'était aussi sympa. Et voilà, ouais. Je ferais pas ça toutes les semaines, quoi, par exemple. Je profite plus à aller au jet le week-end que aller faire la fête toutes les semaines, quoi.
Bah écoute, je te comprends,
même si j'adore ça, hein, mais voilà, pas toutes les semaines.
Ouais. Non, mais je te comprends mille fois. Tu vois, moi, c'était un sujet de discussion et de dispute d'ailleurs avec des amis. C'est que moi, je suis incapable de ne rien faire, tu vois. Et des fois, quand tu pars en vacances avec des amis, moi, je suis là. Le vide me fait peur, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi je vais partir en vacances? En fait, je préfère être en train de bosser. Le soir, je m'entraîne. J'ai mon rythme. Je m'épanouis à 200% dans mon boulot et dans les entreprises que je suis en train de créer, tu vois. Et je comprends pas l'intérêt de partir en vacances pour ne rien faire. Si je pars en vacances, c'est pour aller découvrir des nouvelles disciplines, pour aller faire, je sais pas, des stages, faire des trucs, m'occuper. Mais je commence quand je commence, je sais pas si c'est l'âge, tu vois, mais moi je parle comme un vieux crouton, mais j'ai que 32 ans, tu vois, donc ça va. Mais je commence, tu vois, des fois à me dire, ok, faut qu'il y ait des moments dans la semaine où faut que tu te poses un peu, donc peut-être médite un peu, lis un peu, ou regarde un film, juste
voilà, mais
débranche
moi, le
un
soir,
peu le cerveau, quoi.
J'arrive, c'est pour ça que je te dis, maintenant je me mets des horaires et le soir, franchement, généralement à partir de aller au max à 21h30, je me pose quand même. J'essaie de me poser une heure avant de dormir, ou soit je regarde un film, soit je lis, soit voilà, je pose, ouais. Je prends du temps pour moi quand même le soir.
Ouais, ouais.
Parce que tu peux pas forcément dormir à fond, enfin quand t'es à fond dans tes pensées, dans tes trucs. Après, même si, comme je crois que tu me le disais tout à l'heure, je cogite aussi pas mal la nuit, ça m'arrive. Ouais. Des fois, je me relève même carrément, j'écris ce que je pense pour me dire, allez, je le sors de ma tête, comme ça, c'est fait, j'essaye de me rendormir. Mais après, tout pareil, ouais, je suis pas capable de... On est parti en vacances cet été avec... Il y avait mes frères, justement, et des amis à nous. Nos journées étaient encore plus chargées que quand on travaillait. Hein.
Ouais.
On avait sport le matin de 9 à 11, activité l'après-midi. Enfin, ouais, on n'est pas trop capable de s'arrêter, quoi.
Non, mais je te comprends mille fois. Et je comprends aussi le carnet dans les toilettes pour te vider la tête quand tu,
ouais,
quand tu te lèves la nuit.
Pas dans les toilettes, mais genre partout, quoi. Tu sais, sur ma table de nuit, j'ai souvent un petit carnet. Si j'ai des trucs qui me passent par là, qui m'empêchent de dormir, je les écris.
Ouais.
Et au final, on se rend compte que ça libère, en fait, parce que le cerveau, il y pense pour pas oublier le lendemain. Mais alors que si on se le note, on est sûr de pas oublier. Et ça permet de dormir un peu plus...
Ouais. Mais tu vois, moi, j'adore être comme ça. Le seul endroit où je vois où ça a posé des problèmes dans ma vie, c'était dans mes précédentes histoires amoureuses. Tu vois, c'est dur pour l'autre, quoi, de suivre. C'est hyper chaud, quoi, d'être sur le même rythme. Mais bon, c'est comme ça. Après, on est tous des personnalités différentes et
c'est ça. Et je pense qu'il faut, ouais, il faut vraiment s'adapter avec la situation. Enfin, moi, je ouais. peux pas donner de conseils. Aujourd'hui, je suis célibataire, donc je veux pas donner de conseils pour
les situations
de couple dans ces conditions. Mais je pense que, enfin, voilà, ça dépend de la situation qu'on vit. Et après, je t'avoue, ce qui est dur, c'est que quand on prend un rythme, bah, comme moi j'ai pris, où on vit seul, donc forcément, bah, on a plein de temps. Enfin, on a autant de temps quand on est en couple. Mais je veux dire, on n'a pas à le partager, entre guillemets.
Ouais.
On peut prendre un rythme, une habitude qu'on peut avoir du mal à pas à changer parce qu'on sait qu'on va la changer, mais qui peut faire peur de l'extérieur.
Ouais.
Pour les autres, ouais, t'as raison.
Ah bah moi complètement, je me suis pris. Ça a été souvent des sujets, quoi. Mais bon, c'est la vie. Ok. Et si je pose un petit peu la question un petit peu fâcheuse, tu vois, de la fin, c'est toi en plus qui m'a soufflé la question quand on préparait l'interview. Les sports mécaniques en ce moment ont un peu la vie dure, tu vois, notamment par les médias ou par certains détracteurs, tu vois, notamment tu vois, sur les problématiques écologiques que ça pourrait engendrer. Toi, tu m'as dit tout de suite non, mais pas du tout. Nous, on est loin d'être les pires. On est loin d'être les pires, et même au contraire, il y a même certains avantages à ce qu'on fait. Et ça m'a surpris ta réponse. Est-ce que toi, c'est un truc que tu sens aujourd'hui que peut-être vis-à-vis des sponsors ou même dans le regard des gens que il y a un petit détachement ou un début de désamour, tu vois, vers les sports mécaniques.
Ouais, alors c'est marrant parce que d'un côté, il y a l'écologie qui prend beaucoup de place dans la société aujourd'hui, et c'est tout à son honneur et c'est tout à fait normal.
Ouais.
Et d'un autre côté, finalement, les sports mécaniques qui reprennent vie aussi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de Formule 1, de MotoGP, alors qu'avant, c'était moins médiatisé, c'était moins connu. Ça, c'est aussi les séries qui les ont rendus célèbre. Mais oui, j'ai déjà eu des sponsors qui m'ont dit on partage tout, on a vraiment envie de t'accompagner, mais en fait on veut juste pas paraître sur ton jet parce que ça peut faire une mauvaise image en termes justement de verre, de d'écologie, etc. Ça nous arrive. Et après, okay. on paye aussi le frais de la partie un peu loisir où l'été, voilà, on va aller retrouver des personnes qui sont pas toujours très respectueuses de l'environnement, qui vont aller faire un peu n'importe quoi sur des jets de location.
Ouais, et puis au niveau sécurité
sur,
aussi.
Voilà,
ouais.
Ou sur leur propre machine. Et nous, ben, on paye un peu le frais de ces gens-là, malheureusement. Ouais.
J'ai fait du jet cet été, enfin, cet hiver, là, avec mon fils.
Non, mais attention, il y a des gens qui le font très bien, tu vois.
Mais, non, mais je vois très bien j'étais sur une plage où il y avait que des Russes, tu vois. Moi, j'étais tranquille avec mon fils qui flippait de ouf, parce que c'était la première fois qu'il montait dessus. Et je voyais bien, tu vois. L'archétype du gros russe, tu vois, qui faisait n'importe quoi, qui, tu vois, passait
voilà,
hyper
vite à 5
mètres
d'enfant.
Voilà, et
c'est vrai qu'en France, malheureusement,
quoi.
Bah ouais, on a eu cette mauvaise pub de dire, mais ouais, les jet skieurs, c'est un peu tous des cons, alors que, comme partout, ceux qui en font dans leur passion, nous, au contraire, on est là pour que tout le monde puisse bien vivre dans la mer, dans les endroits qu'on partage, quoi, tout au contraire. Et après pour la pollution, oui, quand je te disais qu'on n'est pas les pires, bien sûr que c'est un sport mécanique et thermique. Aujourd'hui, on a des moteurs électriques qui commencent à se développer, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà, ça pollue, c'est réel. Ça pollue 50 fois moins que quelqu'un qui sort son bateau pour aller jeter l'ancre 200 mètres plus loin et pique-niquer dans l'eau à 200 mètres du port, quoi.
Donc
en fait, il faut juste remettre les choses aussi un peu en perspective et se rendre compte que le jet, c'est un petit sport. Si on prend la totalité, ça pollue beaucoup moins que le foot, par exemple. Pourquoi ? Parce que le foot, c'est très engageant. Il y a énormément de monde et que combien de gens vont se déplacer pour aller voir la Coupe du Monde, pour aller voir des matchs, etc. Les télés, tout ça. Donc, il faut juste remettre les choses un peu dans leur perspective. Les moteurs sont très récents, donc ils ont ils ont très peu d'émissions, ça pollue très très peu.
Ouais.
Et à savoir que le jet, ouais, il est notamment bien apprécié des pêcheurs qui vivent à côté de lacs où il y a du jet, parce que nous on oxygène l'eau, donc déjà ça permet aux étangs de pas pourrir. Quand on voit des étangs tout moisis, etc., bah ils moisissent parce qu'il y a l'eau est pas oxygénée, donc ça croupit, quoi, ça moisit.
Faut vous appeler dans ces cas-là.
Eh ben exactement. Et du coup, on nous appelle pour venir oxygéner l'eau. Donc ça fait des étangs qui sont beaucoup plus propres où la biodiversité se développe. Et moi là où je m'entraîne à côté de Lyon dans un petit lac, les pêcheurs ils adorent savoir quand on y va parce qu'en fait quand on arrête, du coup les poissons ils ont été oxygénés pendant un moment donc ils sont hyper chauds, ils sont hyper excités et du coup quand eux ils vont pêcher, ça mord super bien donc ils sont contents quand on va faire du jet et qu'eux ils peuvent pêcher derrière, quoi.
Ok. Mais écoute, moi je savais pas du tout qu'il y avait cette dynamique d'oxygénation de l'eau et donc tu me surprends, tu m'apprends des choses et je suis entièrement d'accord avec toi sur la partie faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois, et c'est souvent d'ailleurs, tu vois, les personnes qui s'intéressent le moins vraiment à l'écologie qui vont avoir tendance, tu vois, à aller directement
vers
les solutions.
C'est un sport mécanique, ça pollue, quoi, tu vois.
Ouais, exactement. Vite vers les mauvais assemblages. Alors qu'en fait, effectivement, au contraire, quand t'es dedans, tu vas avoir beaucoup plus tendance à compter et avoir une vraie vision de ce que ça fait.
Nous voilà, la mer, les fleuves, c'est notre lieu d'exercice, donc ça nous tient forcément à cœur de prendre soin de ces lieux-là.
Ouais.
Quand tu passes derrière nous, tu retrouveras pas des déchets, tu retrouveras pas, enfin voilà, on prend soin des lieux qui nous permettent aujourd'hui d'exister notre passion. Je pense plus que peut-être quelqu'un de lambda qui en a rien à faire de la mer et qui est capable de jeter son papier dedans, quoi, tu vois.
Ah ouais, bien sûr.
Donc on est aussi responsable de ces lieux-là et on en prend soin et voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois d'avoir cette mauvaise image de personnes qui se sont pas forcément intéressées au sport et qui ont ramené ça à des mauvaises expériences qu'elles ont malheureusement vécues. Ça, c'est vrai, on peut pas l'enlever, elles l'ont sûrement vécu, hein. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui a ce comportement-là et c'est qu'une minorité de personnes et derrière, il y a des athlètes, il y a un sport et il y a du monde derrière et nous, on aimerait continuer à exercer notre passion.
Ouais, bien sûr. Puis surtout que vous faites ça, on va dire de façon très sobre, tu vois. Vous n'êtes pas en train de vous balader en jet privé non plus. Et je
on
pense que
pas les
personnes
de façon.
mais non, mais les personnes à plus blâmer, selon moi, effectivement, tu vois, c'est quand t'as autant de personnes qui te suivent, quand t'as autant d'influence à travers le monde, si tu calcules effectivement les bilans carbone de ces gens-là et l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres, selon moi, c'est une question qu'on devrait plus se poser, en tout cas, tu vois.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
Moi, bon, écoute, j'étais un petit peu obligé, tu vois, vu que tu m'avais soufflé la question, et c'est vrai que je m'étais demandé si ça valait le coup. J'arrive un peu au bout de mes questions, mais j'ai deux questions que je pose à la fin, que je pose à toutes et tous les invités. La première, c'est de savoir, est-ce que y a un livre ou un film qu'on crée chez toi, un déclic, qui t'ont vraiment inspiré et que t'as beaucoup recommandé autour de toi?
Ouais, il y a un film que j'ai vraiment adoré, je crois qu'il s'appelle La Rage ou La Rage de Vaincre. C'est un film de boxe.
Ok.
Mais il est très connu, je crois que ça doit s'appeler La Rage.
Okay.
C'est un athlète justement, mais qui perd sa femme et qui revient au combat. Ouais, c'est un film qui m'a
La rage au ventre.
La rage au ventre, ouais, c'est ça.
Ok.
Ouais, qui m'a toujours inspiré. Livre. Je suis pas forcément une grande lectrice. De plus en plus, j'écoute des livres audio. Mais on va dire que ouais, le livre de Pierre a quand même que Pierre a sorti, donc il a sorti un peu un livre qui s'appelle L'identité gagnante. C'est un livre que j'ai déjà lu 3 fois par exemple, alors que je lis pas beaucoup.
Ok.
Parce que j'aime bien, ça me fait des petites piqûres de rappel et au final à chaque fois à travers les lignes on arrive à apprendre un peu plus sur soi-même et sur les autres, donc c'est un des livres que j'aime bien.
Ok. Trop cool. Effectivement, je le recommande aussi. C'est un super bouquin et il en sort un deuxième d'ailleurs, dont je vais faire un petit peu la promo aussi ici. Et la toute dernière question que je pose, Estelle, c'est de savoir, est-ce que tu peux me recommander 2 personnes à aller interviewer, soit des athlètes que tu connais et dont tu sais que l'histoire est extraordinaire, ou au contraire que tu connais un petit peu moins et dont t'aimerais bien connaître un peu plus leurs secrets, leur façon de fonctionner pour performer.
Pour rester dans le sport mécanique, je dirais, et en plus français quand même, je dirais Fabio Quartararo qui a été champion du monde en MotoGP, que la France avait pas été ou même jamais été, je crois, et ça à l'âge de 19 ou 20 ans, donc très très jeune, et ouais, je serais vraiment curieuse du coup d'en apprendre un peu plus sur sa préparation, sa vision des choses et voilà, d'avoir gagné un titre aussi prestigieux à son âge, je pense que ça doit aussi pas être facile maintenant, quand on a 20 ans et qu'on a déjà atteint ce niveau-là et gagné finalement la plus grosse compète dans son sport, qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Ouais, clairement.
Donc bah, je pense qu'il se met des nouveaux challenges, j'imagine bien, mais ouais, ça doit pas être facile non plus.
Vous avez l'occasion de vous croiser entre sport mécanique, je sais pas, via des sponsors communs, via des constructeurs communs ou
pas avec la MotoG. Alors oui, là notamment moi j'ai commencé à Lyon à travailler avec Neurovision qui justement vient travailler tous les aspects sur l'analyse de l'ouverture de la vision, la façon de réagir aux événements, d'être très rapide. C'est vraiment un travail neurologique.
Ouais.
Très intéressant d'ailleurs, et que les pilotes de Formule 1 et de GP font beaucoup, de MotoGP. Et du coup, par l'intermédiaire de Romain de Neurovision, on entend parler des uns et des autres.
Okay.
Nous, on croise plutôt la Formule 1 bateau, parce que souvent, on est sur les mêmes semaines ou les mêmes périodes de compétition.
Ok, d'accord. Ok, ça marche. Et est-ce que tu aurais une deuxième personne à me recommander plutôt
Deuxième personne, ouais, mais je crois que tu l'as déjà interrogé ou peut-être pas.
Tu peux me dire, je te dirai.
C'est Laura Tarantola qui a été vice-championne olympique en avion.
Eh ben écoute, à défaut de que ça soit une bonne recommandation, parce qu'effectivement j'ai déjà interviewé, mais ça sera une super recommandation d'épisode pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant.
Donc Laura que j'ai pu rencontrer lors d'une conférence à Nantes et pour le coup qui s'entraîne à côté de Lyon en plus.
Ouais.
On a malheureusement pas le temps on s'est pas revu depuis parce que on a toutes les deux je pense un quotidien hyper chargé. Mais ouais j'avais vraiment apprécié sa façon de voir les choses et je pense que c'est un bon exemple à suivre et à écouter pour son développement perso, quoi.
Écoute, ouais, je te le recommande aussi. C'est vraiment un super échange avec elle. Elle est hyper sympa, hyper spontanée. Elle avait été hyper transparente sur effectivement ce qu'elle ressentait et sa petite voix des fois qui lui parlait dans sa tête en lui disant tu ne peux pas gagner parce que tu n'as pas le droit d'être arrogante, tu vois. Elle aussi.
C'était une super échange. C'est vrai qu'on avait à peu près la même problématique, on avait échangé à ce sujet-là en plus.
Et elle est vraiment top. Et donc, la prochaine fois que je passe à Lyon, je vous appelle toutes les deux. Et puis, si jamais vous avez le temps pour un dîner ou un café très tôt le matin, ça sera avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Et merci infiniment, Estelle. Franchement, je me suis régalé à découvrir, tu vois, le jet, à découvrir toi aussi tes petits secrets et de comprendre aussi mieux, tu vois, la psychologie de la pilote. Tu vois, c'était moins naturel pour moi parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches. Mais en tout cas, je me suis régalé, tu vois, à découvrir ton parcours, découvrir un sport que je connaissais pas du tout. Tu m'as appris un milliard de trucs aujourd'hui, donc je te suis infiniment reconnaissant.
Merci à toi surtout de me permettre de partager mon sport aussi et cet échange qui a été constructif. Sûrement autant pour moi que pour toi.
Écoute, j'espère si j'ai pu t'apporter. Donc merci beaucoup et voilà. Et si je peux t'aider en quoi que ce soit, que ce soit sur la partie entrepreneuriat, le sport ou n'importe quoi, en tout cas je réponds toujours présent avec les athlètes. Donc voilà, merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui sont encore ici. Vous avez donné plein de devoirs, plein d'exercices à faire que vous pouvez tester pour vous. Et puis si jamais vous avez rien à faire ou que vous cherchez un épisode à écouter, celui de Laura Tarantola est génial. Allez, salut à tous et salut Estelle.
Salut.
Ciao. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.